OK. Oui. C'est juste pour vous préciser qu'il y aura des propos introductifs de nos trois intervenants. Donc, Madame Dominique Faure, comme proviseur, est aussi secrétaire académique du SNPDN, donc le Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Catherine, elle est aussi au niveau de collectif vigilance collège-lycée. Et Karine, vous la connaissez mieux que moi. Donc, du coup, voilà, je leur laisse la parole et puis après, l'échange entre vous. Hein, donc c'est...
Alors, plusieurs choses. Moi, je découvre le film comme vous. J'avais croisé le réalisateur Jawad Ralib à Bruxelles lors d'un colloque. Et d'abord, revenir à chaud en tant que spectatrice sur un film que je ne connaissais pas, en tant que professeur de lettres, ça ne ressemble pas forcément au cours avec le... Enfin, moi, ils sont debout, ils s'assoient en silence, les sacs sont... à leurs pieds, le portable éteint dedans. Je ne supporte pas le bruit, donc il n'y a pas un bruit. Sinon, je m'arrête et je fusille du regard, mais je n'élève jamais la voix. Donc, en gros, je regrette peut-être des scènes un peu excessives. Et je salue vraiment le film pour éclairer les angles morts de la pensée sur un sujet qui a du mal à être nommé. Et même s'il tue depuis 40 ans, même si ce n'est pas des faits divers isolés, c'est une idéologie qui tue depuis presque 40 ans. Et on n'en est toujours pas à la nommer sans trembler. Il faut être sacrément sûr de son humanisme pour ne pas trembler en nommant les choses. Et Jawad Ralib, qui est né et a grandi au Maroc, me disait qu'il avait senti le basculement de cette idéologie très mortifère et liberticide au Maroc. Lorsque l'Iran a basculé vers la République islamique d'Iran en 1979. Et donc, c'est le mérite du film d'éclairer des angles de mort de la pensée qui ne sont pas éclairés par le langage. Après, on peut être d'accord ou pas sur la façon, sur des détails. Mais l'islamisme tue à 90% des musulmans. Et ceux qui disent pas d'amalgame sont souvent les premiers à en faire. Et le mérite du film, c'est de dénoncer l'islamisme qui prend en priorité les musulmans qui veulent être laïcs, faire de la spiritualité de leur religion quelque chose de privé et de personnel, sans qu'une police des mœurs se mêle de faire la loi et que leur nombril et leurs injonctions à eux dérivent sur les autres par la menace ou la menace d'être ostracisés, d'être coupés du clan. Parce que c'est ça qui se joue. Et pour en avoir beaucoup rencontré en Belgique, la situation, pour vous dire, des écoles est complètement différente. Il y a effectivement des cours de religion. Il y avait même dans le colloque un imam, alors soi-disant progressiste, mais qui n'avait pas de contenu en une demi-heure, et qui nous disait il n'y a pas de programme, il n'y a pas de regard extérieur sur les cours donnés. Aucun. Pendant ce temps-là, certains peuvent choisir des cours d'EMC. Des cours d'éducation morale et civique. Mais les cours de religion, étant donnés dans le plus trouble silence des salles, ça alertait aussi sur ça, cette idéologie galopante. Il y a plusieurs choses, par exemple, qui ne se passeraient pas en France. Le voilement des corps, les mères qui vont chercher des bulletins ou autres en ont totalement le droit, par exemple. Il y a une différence entre les usagers qui interviennent à titre de parents, par exemple, dans un établissement, et qui ont le droit de se vêtir. Il y a un petit peu là, la caricature du voilement intégral. C'est plus pernicieux parce que ce n'est pas vu justement quand les signaux sont faibles. Donc c'est la seule alerte, c'est sur ça. On voit que cet homme en costume rappelle beaucoup la figure de Tariq Ramadan, très porté au nu, surtout par les milieux dits progressistes, très amis avec Edoui Plenel, ancien directeur de Mediapart. Il régnait en maître, payé par le Qatar, sur les universités suisses et notamment anglaises. Il a longtemps eu toutes ses entrées sur les chaînes de télévision. C'est ainsi que ça se diffuse. Il est beaucoup question dans le film des réseaux sociaux. On mésestime et on ne connaît pas assez. Et dès qu'on se plonge dans l'idéologie et le moule idéologique qui baigne, dans lesquels baignent nos élèves, alors ça interpelle fortement. Il y a la musique, avec des rappeurs religieux comme Medine, qui adoptent, à défaut, ils se défendent de l'être, toute la rhétorique islamiste. Je ne dis jamais Musulmans, islamistes, je distingue toujours les termes. Musulmans étant ceux qui croient de façon privée en une spiritualité qui leur est propre sans se soustraire à la loi commune. Islamistes étant ceux qui veulent mettre les lois divines au-dessus des lois civiles et qui, pour cela, parlent au nom des autres en plus et sont invités comme tels, sont les premiers à menacer ou à croire que leur dogmatisme et leur ultra-conservatisme vaut majorité. Mais la majorité silencieuse n'adhère pas du tout à cela. Et ce film a ce mérite-là d'essayer, en tout cas, d'apporter une parole autre. Généralement, les étiquettes tombent. Les étiquettes d'islamophobie ou de faire le jeu d'extrême droite, voilà. Les extrêmes se rejoignent totalement, et ce n'est pas un intégrisme religieux, en l'occurrence, qui est seul à combattre. C'est tous, ils se rejoignent. En Belgique, en septembre, 5 écoles ont brûlé. Parce que la loi Evras voulait donner 2 heures obligatoires à partir de 5 ans dans les écoles pour l'éducation à la vie sexuelle et affective. Alors bien sûr avec des professionnels qui, pour chaque âge, faisaient cette éducation. Scandale. Mais dans la rue, il y avait les intégristes catholiques comme les intégristes islamistes. Et encore, c'est un pléonasme. Mais ils étaient ensemble main dans la main. Pour la manif pour tous, ils étaient ensemble main dans la main. Autour du collectif d'Éric Zemmour, parents vigilants, c'était les premiers à boycotter des films comme Tomboy ou Rafiki. Rafiki, c'est un magnifique film kényan qui passait il y a 2 ans pour lycéens au cinéma et qui abordait l'histoire d'amour entre 2 adolescentes et encore une sorte de Roméo-Juliette contemporain. Mais l'histoire centrale n'était même pas ça. Mais le film n'avait pas pu être montré au Kenya. Trop de menaces de mort sur la réalisatrice et des cinémas d'art et essai ont brûlé là-bas. Donc, impossibilité de représenter le Kenya aux Oscars, parce qu'un film pour être montré doit être bon. Alors j'ai plein de choses à aborder, mais je laisse la parole à celles qui gentiment se sont déplacées de Nantes, enfin de Carquefou et de Rennes.
Après, c'est juste des propos introductifs, parce que ce qui est important aussi, c'est d'avoir le retour de la personne qui est là, voilà, et puis l'échange. C'est pourquoi les propos, c'est 5 minutes, quoi, pour après que ça aille, ce soit entre vous.
Oui, bonsoir. Je vais juste réagir aussi. Je n'avais pas vu le film. Moi, je suis proviseur d'un lycée. Juste dans ma réaction, et je suis intéressée par les échanges qu'on peut avoir ensemble, c'est que je me dis qu'on a une grande chance en France d'avoir la loi de 2004 et la séparation des églises et de l'État. Et que dans l'école, justement, avec cette posture de la parenthèse républicaine qui est offerte aux jeunes jusqu'au lycée, hein, de l'école maternelle jusqu'au lycée, qui permet à tous les élèves et de toutes les confessions de pouvoir apprendre indépendamment de leur culture et de leur religion, eh bien, finalement, ça nous permet de faire des choses avec tous ces jeunes, d'ouvrir des esprits, d'ouvrir des parenthèses. Et sûrement qu'une des... Une des entrées qu'on a et que peut-être on a laissé un peu passer à un moment donné en pensant que la laïcité, c'était quelque chose d'acquis et que finalement, le vivre ensemble, c'était du commun dont on pouvait arrêter de discuter. Là, maintenant, on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il faut vraiment qu'on en parle. Et puis, dès lors qu'on l'associe à nos règlements intérieurs de l'école de la République, alors on peut mettre à distance les religions et les cultures religieuses de nos élèves et des familles, se dire qu'on a du commun dans l'école de la République et du coup mener un tas d'actions qui permettent d'ouvrir le champ de l'ouverture. Nous, c'est ce qu'on fait au lycée chaque année. Chaque année, on fait un festival. Chaque année, on fait des conférences ouvertes aux familles. Ouvertes. Mais c'est difficile, c'est des questions difficiles. Et moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est tous ces espaces où on voit les professionnels se parler et on sent bien, hein, les tensions, on sent bien la difficulté de la directrice. Alors évidemment, j'aimerais qu'elle soit un peu plus engagée, un peu plus, voilà, évidemment, bon, voilà. Mais c'est pas grave, hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est ces échanges entre les professionnels qui posent bien les questions difficiles que ça présente, tous ces équilibres hasardeux, mais quand même courageux globalement, voilà. Donc je vais m'arrêter là, on aura des échanges.
Alors ma réaction en tant que professeur d'histoire-géographie notamment, c'est que c'est vrai qu'on vit une situation d'hyper-violence dans la classe. Et j'ai tout de suite pensé, quasiment au début, là, quand il y a cet affrontement, ce professeur se met à crier pour faire taire ses élèves, j'ai tout de suite pensé à ce qui se passe pour nous en France. On a effectivement la chance d'avoir la loi de 2004, mais on a aussi tout un travail qui a été fait bien avant la loi de 1905, où à un moment, l'État a dit justement à l'Église, alors nous, c'est l'Église catholique, terminé, l'Église se retire du fonctionnement de l'école, l'Église se retire du fonctionnement politique. Et là, on voit bien que ça n'est pas le cas. Et je pensais à la phrase de Jean Zay, qui a été ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire en France, et qui avait dit « L'école, ça doit être un sanctuaire où les querelles du monde n'entrent pas ». Et là, on voit bien que c'est l'extrême inverse. Et ce qui est intéressant à comparer, c'est qu'en fait, ici, en Belgique, on voit bien, bon, il y a, je crois, 25% d'enseignement public, puis le reste est essentiellement pris par le privé. Mais quand on voit le cours de Nabil, il faut comprendre que l'État, le proviseur le dit à un moment, l'État n'a pas le droit d'intervenir dans la classe. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on sait que ces professeurs, finalement, enseignent à tous. Heureusement, je relisais avant de venir ce qui se passait en Belgique. Les cours donc, sont totalement libres en ce qui concerne les cours de religion. Là, on voit l'islam, mais c'est la même chose pour la religion catholique. Et c'est vrai que là, il y a une grosse discussion qui est faite justement pour que non seulement les cours de religion soient contrôlés, mais également pour que le port du voile soit remis en cause dans les établissements scolaires. Donc on voit bien que finalement, là, il y a une réflexion qui est faite. Par ailleurs, ce que je dirais d'intéressant, c'est le courage de cette femme qui pratique ce qu'on nous demande de faire constamment dans nos classes et ce pourquoi on est devant nos élèves, c'est-à-dire d'enseigner de manière laïque. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner de manière laïque? Ça veut dire tout simplement apporter aux élèves une neutralité dans les propos. Là, on voit bien que les élèves apportent l'homophobie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte un texte pour justement dénoncer l'homophobie à partir même de la culture des élèves qui sont devant elle. Et cette neutralité qu'elle essaie de porter à un moment donné, qu'elle essaie de faire comprendre à ses professeurs, on voit bien qu'il y a une résistance. Pourquoi il y a une résistance? Ce n'est pas parce que les profs sont contre, au contraire, mais c'est parce qu'effectivement, apporter un discours de neutralité, aujourd'hui, ce n'est pas entendable. On voit très bien qu'il faut prendre position, qu'il faut être pour l'un ou pour l'autre, hein, y compris d'ailleurs chez les professeurs, y compris en France, et qu'il est plus facile souvent d'avoir la posture de Nabil, qui lui est dans l'enfermement finalement, dans l'enfermement doctrinaire. Et j'ai trouvé très intéressant la scène où ils sont dans la salle de photocopieuse et tout le système d'enfermement, idéologique bien entendu, puisque là il se referme sur la religion, il l'appelle ma sœur, il lui rappelle qu'elle fait partie d'une communauté, mais aussi il ferme la porte. Et ça c'est intéressant, c'est l'enfermement des esprits. Et on voit bien comment elle essaie, au contraire, de donner une autonomie, de faire sortir les élèves d'eux-mêmes, de les faire sortir de leur communauté, sauf qu'elle a en face d'elle, effectivement, et un professeur et une élève qui est totalement radicalisée. Donc ça c'est très intéressant. Voilà. Pour le reste, c'est vrai que je reviens quand même sur l'hyperviolence du film. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, c'est une situation de classe qui, je pense, même en Belgique, est exceptionnelle, malgré tout. Et que s'il y a des contestations d'enseignement, ça va rarement, quand même, je pense, jusque-là.
Oui, donc là, moi, je vais être le passeur de micro pour ceux qui veulent les interpeller, les interroger. Voilà.
Ce ne sont pas des situations exceptionnelles, même chez nous.
Bon. Une première là-bas. Je vais le passeur de micro.
Bonsoir. Donc, j'ai l'impression que vous retenez pas mal quand même ces histoires de radicalisation de la religion. Et voilà, moi, j'aurais plutôt tendance, comme vous, Madame la Proviseure, à retenir tous ces moments d'échange entre élèves, entre parents d'élèves, entre instituteurs, proviseurs, et de créer ces espaces où on peut discuter de nos convictions et pour mieux les comprendre et mieux les faire coexister. Parce que moi, je crois, et d'ailleurs, quand on reprend les textes, que la laïcité, ce n'est pas la neutralité, mais c'est justement le cadre légal qui permet de faire exister nos convictions et d'avoir la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, ce n'est pas la neutralité. Et moi, j'ai vraiment apprécié la première partie de ce film qui montre justement que finalement, la religion entre inexorablement dans notre quotidien et dans la réalité des élèves. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à l'école, à ces espaces où on en parle. Voilà.
Est-ce que je peux juste réagir, en France en tout cas, dans la déontologie du professeur, la neutralité fait partie de nos obligations professionnelles. Je ne parlais pas des élèves, hein, mais je parlais de notre côté, la neutralité fait partie de l'obligation professionnelle. Je parlais du côté du professeur.
Bonsoir à tous. Je voulais un instant revenir sur la notion de laïcité. La laïcité, c'est la neutralité du domaine public. C'est-à-dire que la religion est du domaine privé, la croyance ou la non-croyance. Donc la neutralité, naturellement, s'applique encore plus à l'école et dans tout l'espace public, comme dans les hôpitaux, comme dans les piscines. Voilà. Donc la neutralité, c'est évident, mais c'est le droit pour chacun de croire ou de ne pas croire, mais dans le domaine privé. Tout le reste, c'est neutre.
Ouais, pas l'espace. Je...
Donc, vous pouvez rebondir sur les deux.
Je veux bien rebondir sur les deux. Ouais.
Oui, oui, c'est... mais je le garde là-haut. Vous passez l'autre micro.
C'est juste, monsieur, juste pour une question de vocabulaire. C'est dans le service public qu'il y a obligation de neutralité. L'espace public, non. N'importe qui.
On n'entend rien.
Non, je disais juste une question de vocabulaire. Dans le service public, bien entendu, il y a neutralité des agents et on demande la neutralité des élèves puisque ce sont des esprits en formation. Par contre, les parents, effectivement, une mère peut venir voiler, ça ne pose pas de problème. Par contre, l'espace public, là, il n'y a pas la neutralité. On est d'accord.
Je veux bien cumuler les deux et intervenir de temps en temps. Intéressant sur l'idée de neutralité. Les fonctionnaires sont soumis au devoir de neutralité depuis 83, voilà. Mais... la laïcité telle qu'elle s'est... le cadre juridique qui régit la laïcité ne contient jamais le mot. En plus, il n'est pas compris dans les pays anglo-saxons. La traduction de ce qu'il contient comme sens n'existe pas. C'est traduit par sécularisme. C'est juste la perte d'influence d'une religion à l'usage. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut concevoir que la laïcité est rentrée par l'école dans un pays en France qui ne l'était pas. Et quand... donc, c'était par la distinction du savoir et du croire. En disant, on va apporter à l'école et on va distinguer le maximum de vérité à un moment donné. Et peut-être que dans 100 ans, les savants diront autre chose et que la science peut se tromper. Mais ne prétend pas à la vérité absolue. Et interroge, voilà. Alors qu'un dogme, c'est le contraire d'un raisonnement. Puisque une pensée est bloquée au 7e siècle, si on pose une question, bah oui, mais alors une sœur hérite deux fois moins que son frère, je ne comprends pas trop pourquoi il y a une inégale dignité des personnes, on va dire, je ne pose pas trop de questions, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, en tout cas, à l'école, ça est d'abord rentré par les lois Jules Ferry de 1881, de dire on distingue le croire et le savoir. Ensuite, on laïcise le personnel, c'était un peu après, en charge des cerveaux, pour permettre un moment de respiration. Et quand la loi 1905 intervient, c'est parce qu'il n'y a que 4 cultes reconnus. Il y a les juifs, il y a les catholiques et il y a 2 cultes protestants, pas les autres. Et donc, effectivement, la laïcité n'est pas anti-religieuse, pas du tout. Elle permet, au contraire, et elle garantit le libre exercice du culte. C'est pour ça que même sur les radios, ou même sur France Culture, le dimanche matin, des émissions à dimension spirituelle, de toutes sortes. Pareil sur le service public, pareil dans les prisons, les internats et tout. C'est un devoir de permettre librement d'exercer un culte. C'est vrai, par la loi 1905. Et juste une chose, c'est pas anti-religieux, mais a-religieux. Beaucoup essaient d'invalider... la loi 1905 par les libertés qu'elle permet. C'est pour ça que la loi 2004, ça ne suffisait plus à défendre la laïcité et qu'il fallait, à la suite de l'histoire de Creil de 1989, repositionner pour un espace laissé libre, un espace de respiration à l'école pour les élèves mineurs. La France distingue élèves mineurs majeurs et considère qu'on n'est pas croyant, on est issu de parents croyants. C'est pas pareil jusqu'à 18 ans. D'autres pays pensent qu'à 10 ans, on est sûr de son coup et que c'est comme ça. C'est une assignation à résidence identitaire. La France fait la différence. Il faut très bien évoluer à l'université parce qu'on pense que c'est le résultat d'un choix. Pas du tout à 11 ans, parce qu'on pense que ce serait un sacré conflit de loyauté d'avoir à choisir.
Karine, Madame oui. Fort, peut-être, peut, si vous voulez répondre un petit peu.
Je suis désolée, j'ai...
Oui, oui, parce qu'il faut que ça passe, quoi. Voilà.
Non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. Juste dire aussi qu'on n'en parle pas, mais dans le film, il y a un sujet qui me paraît très, très traversant de notre période, c'est tout ce qu'est le harcèlement, au sens large. C'est-à-dire que tout ce qu'est le harcèlement, tout ce qu'est l'emprise des réseaux sociaux sur les relations entre les jeunes et la façon dont les choses se diffusent et la pression que ça met, on le sent bien monter chez la jeune, évidemment. Hein, ça rappelle, par exemple, l'affaire Mila. Vous connaissez probablement cette histoire de cette jeune fille qui a fini par être déscolarisée de son lycée parce que l'État français n'arrivait pas à la protéger et à la mettre en situation de protection. Mais la pression que ça met aussi sur l'enseignante qui, de fait, se trouve victime de ces menaces par réseaux sociaux. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un empêchant, on va dire, un empêchant pour les enseignants de travailler sereinement, un empêchant pour les établissements scolaires de pouvoir développer des actions et de pouvoir parler. J'entendais ce que vous disiez et je suis d'accord. Hein, évidemment qu'il faut dans l'école laïque et la loi de 2004 et la charte de la laïcité qui s'applique à l'école en France permet, à travers l'UMC, à travers les programmes, de pouvoir avoir des débats éclairés. La philosophie, hein, je voyais qu'on parle à la fin de la philosophie, les cours de philosophie sont des lieux où les élèves doivent pouvoir avoir des temps d'échange apaisés, respectueux, basés sur la science et la connaissance. Hein. La question, c'est comment on crée une dynamique collective où on embarque tous les personnels pour pouvoir réussir à créer ces espaces d'échange, ces regards respectueux, en mettant les idéologies un peu à distance et en mettant plutôt nos devoirs de fonctionnaires dans l'école, en fait. Hein. Et c'est là que, du coup, la neutralité du fonctionnaire de l'école peut avoir un sens intéressant parce qu'il permet à tout le monde, je parle des professionnels, de se retrouver sur du commun, le devoir de fonctionnaire neutre dans l'école de la République qui offre aux jeunes des espaces de connaissances et d'échanges.
Oui, une remarque sur les... non. Une remarque, effectivement, sur la rencontre avec les parents. En l'occurrence, là, c'est un peu caricatural, quand même, parce que lorsque des parents de culture ou de confession musulmane apprennent que leur fille est allée dans une sortie scolaire et a refusé d'enlever son voile au moment d'entrer dans le théâtre, et que donc il y a une conversation, un échange qui est fait avec les parents pour expliquer pourquoi leur enfant, même en dehors du lycée, est obligé d'enlever son voile, puisqu'elle est toujours à l'école et elle est accompagnée par son professeur, la majeure partie des parents marquent leur étonnement et ils soutiennent l'école. Donc il y a des dialogues tout à fait positifs avec les parents. Je parle ici de cas qui se sont passés dans le lycée où j'enseigne. Autre élément important, c'est qu'effectivement, on a parlé du conseil pédagogique. Il est important, et là c'est pareil, bon, il faut marquer le trait, on a vu que c'était le sens du film, mais justement parce qu'il n'y a pas d'enseignants de religion dans nos lycées, quand on se réunit, généralement, effectivement, c'est plutôt le consensus. Enfin, on essaie de créer du consensus et on essaie justement de faire un travail d'équipe, notamment au sein d'une classe, pour mener des projets afin qu'on donne du sens à nos élèves sur cette laïcité. Dernier point, il faut rappeler qu'en Belgique, l'État subventionne les cultes, ce qui est radicalement différent avec la France, puisque la France ne subventionne aucun culte. Alors, on est d'accord, il y a l'Alsace-Lorraine qu'on nous sort généralement à chaque fois, mais la loi ne pouvant pas être rétroactive dans une république démocratique, donc on ne va pas revenir sur le cas de l'Alsace-Lorraine pour l'instant. Il y a Mayotte aussi, il y a des adaptations, c'est vrai, il y a 4 cas où c'est un petit peu différent, mais sinon, globalement, l'État ne subventionne aucune église. Après, il y a les cathédrales, les églises, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir.
Oui, merci pour vos interventions. Madame la proviseure, tout à l'heure, vous parliez de l'école publique, soit de l'école laïque républicaine, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles privées hors contrat. Et quels sont les contrôles sur ces écoles-là? Comment peut-on être certain que l'enseignement qui est donné est de la même qualité que dans l'enseignement public?
Ce que je peux simplement dire, c'est qu'on nous demande, nous, en tant qu'enseignants du secteur public, par exemple, d'aller faire passer en Bretagne, dans un lycée très privé pour jeunes filles de bonne famille, on va dire, entre guillemets, donc de faire passer justement l'épreuve d'éducation morale et civique pour aller voir un petit peu ce qui se dit dans ces lycées-là. Voilà. Donc il y a quand même un contrôle.
Par rapport à ça, quand même, faut faire une distinction. Hein. Il y a deux types de contrats. Enfin, il y a les établissements privés sous contrat qui, eux, ont des obligations. Bon, alors après, ils prennent aussi des libertés, mais il y a un contrôle, puisque c'est l'État qui forme les enseignants, les inspecteurs y vont pour inspecter régulièrement, il y a un contrôle sur les programmes, c'est les établissements publics qui font passer les examens, etc. Donc on est quand même dans une situation relativement bordée. Les contenus de cours sont les mêmes. Puis après, il y a les hors-contrats. Et les hors-contrats, à votre question, comment peut-on avoir la garantie ? On n'a pas de garantie. Il faut être clair. On n'a pas de garantie. C'est bien un des problèmes en ce moment de notre territoire français qui voit fleurir un certain nombre d'écoles de l'entre-soi. Et là, il y a de tout. Hein. Il y a des écoles confessionnelles de toutes les religions et de toutes les confessions, mais il y a aussi des écoles de philosophie multiples et variées. Moi, j'appelle ça les écoles de l'entre-soi, hein, parce que je suis une militante de l'école publique. Et donc, je pense que la seule contrepartie, contrepoids de ça, c'est de porter haut l'école publique et de la faire connaître, de la défendre, de valoriser ses projets, de la porter. Et puis de défendre les enseignants, enfin, et tous les corps qui y travaillent, tous les personnels qui y travaillent.
Non, c'était pour rappeler que le tournant qui n'a pas été pris, c'était 1983. Sous le gouvernement Mitterrand, il y a un ministre, le ministre Savary, qui a proposé une école de la République pour tous. Et ça ne s'est pas fait devant les résistances de terrain. À partir des années 2000... C'était plus public ou privé, c'est qu'il n'y a aucun article dessus, mais c'est une catastrophe, parce que ça fait une génération où, pour soustraire au discours républicain, où on crée des ponts et du commun, pour surtout ne pas entendre l'altérité, le pluralisme des vues, alors surtout pour éviter ça, on met effectivement dans des écoles. C'est aussi bien les intégristes catholiques dans des écoles, par exemple à Paris, la fraternité Pidis, où ils n'apprennent pas la Shoah, où les garçons et les filles sont séparés, où le poids du voilement des corps incombe pareil. D'accord, le même discours est tenu sur l'école que sur une zone interdite qui avait lieu à Roubaix. Menace de mort, bien sûr, hein, parce que c'est un sujet, l'islamisme, qui, chaque fois qu'il est abordé, vaut étiquette extrême droite, islamophobie, menace de mort. C'est le triptyque qui fait que c'est silencié. Et les voix notamment silenciées, ce sont les apostats. Ne pas croire, c'est condamné de prison ou de mort dans 13 pays du monde. 69 pays condamnent l'homosexualité dans leurs lois, et principalement pour des raisons religieuses. Et ne pas le dire, et ne pas s'emparer de ces sujets par trouille ou par peur, voilà, c'est faire gagner les bourreaux et les bigots. Et ouais, bon, alors j'ai encore plus.
Karine, c'est une passionnée. Elle l'a dans les tripes. C'est une amie à moi. Elle est passionnée. Et on est une bonne paire, quoi, tous les deux.
Oui, bonsoir. Moi, je trouve que ce qui est quand même bien montré dans le film, indépendamment de quelques clichés ou d'aspects peut-être un peu caricaturaux, c'est la difficulté de s'attaquer, de contrer, de trouver la parade face à ces attaques de... Alors, non pas tant de la religion, d'ailleurs, mais plutôt qu'une certaine conception de la religion, c'est-à-dire comment contrer le salafisme. Parce qu'on voit bien que l'enseignante, elle essaye de trouver une réponse en présentant un auteur, si j'ai bien compris, qui est quand même plutôt enfin, musulman. Voilà. Donc, comment parler de la religion sans que les élèves ne se sentent offensés? Parce que, voilà, on voudrait bien qu'ils puissent dire, effectivement, là, on voudrait bien leur faire dire ou les faire réfléchir sur le fait que, non, la religion, c'est pas ça, c'est pas le salafisme. Mais eux, voilà, ils ont tendance à dire « Oui, mais vous attaquez ma religion ». Donc moi, je trouve que c'est assez bien montré dans le film. C'est comment est-ce qu'on peut réagir, enfin, comment est-ce que la communauté éducative peut, par sa pédagogie, et peut-être aussi, parce que vous parliez de la philosophie, mais si on parle, enfin, les cours de philosophie, on va quand même être obligé de parler un petit peu de religion. Donc comment contrer ces attaques par les salafistes? Parce qu'on voit bien que ces jeunes sont quand même complètement, j'allais dire, contaminés par cette idéologie funeste.
Alors, je dirais, il y a deux choses. Je vais être franche, une chose négative, c'est vrai qu'en philosophie, je parlais avec un professeur du lycée où j'enseigne, il me disait qu'il abordait la question du fait religieux différemment. Il passait maintenant par l'Antiquité plutôt que de passer par les trois grandes religions du livre pour pouvoir rentrer dans le... Il n'abandonne pas, hein, c'est quelqu'un qui est en train de terminer un gros livre sur la laïcité, là. Mais Éric Chevet, vous verrez son livre bientôt. Mais par ailleurs, ce que je dirais, c'est que moi, ce que je pratique avec les élèves, c'est bien l'enseignement du fait religieux. C'est-à-dire qu'on met en fait, on met en parallèle les trois religions du livre en montrant qu'elles s'inspirent les unes des autres. Alors généralement, ça déstabilise les plus croyants hein, en disant, mais attendez, vous êtes en train de me dire que tout se vaut. Et donc, nous, on leur dit bien qu'on est là dans l'explication de ce qu'est la religion dans une société, comment elle transforme la société, comment elle prend le pouvoir économique et politique, et qu'en aucun cas, on est là pour savoir si c'est bien de croire en tel Dieu, ou pas de croire du tout. Et quand on prend cette distance-là, généralement, en fait, dans tout l'embrigadement qui est apporté aux élèves, toutes les phrases qu'ils ont à sortir, là, ils n'ont pas forcément le vocabulaire. Et quand on prend cette dimension historique, cette dimension scientifique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on passe par le savoir, quand on parle par le croisement des sources, ça nous laisse un petit temps de respiration. Je ne dis pas qu'après coup, ils ne reviennent pas à la charge, mais ça nous laisse quand même un petit temps d'expiration qui permet au moins d'expliquer à tout le monde pourquoi le fait religieux est aussi important à connaître aussi dans sa diversité.
Il y a une dame qui va intervenir depuis tout à l'heure, là.
Je crois que... Madame était en premier là-bas.
Ouais,
si
la
jamais,
dame
hein.
était en premier là. Oui.
Ah bon
ouais, allez-y, madame. Sinon, vous n'allez jamais.
Merci. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. si, je trouve que ce film est intéressant. Il se passe en Belgique. Mais on sent bien, finalement, que cette question, elle n'est pas particulièrement belge, elle est internationale. De par la mondialisation, les réseaux sociaux en particulier, l'effet de harcèlement, etc. Pour aller très souvent en Belgique francophone, je peux assurer qu'on se sent très bien en Belgique et que par ailleurs, en Belgique, on a déjà légiféré depuis très très longtemps sur des questions comme le mariage homosexuel et l'euthanasie, qui sont pourtant en France très résistants à cause du fait religieux, il faut le dire. Donc je pense que chaque pays essaye actuellement de lutter à sa façon contre ce fléau. Il faut parler d'un fléau. Et voilà, c'est la question. Comment lutter, chacun à son niveau. En France, on a un rempart, c'est la loi de 1905, la loi qui nous protège. Mais est-ce que c'est un rempart suffisant? C'est toute la question. En Belgique, ils ont une façon différente de réagir, puisque toutes les religions... chacun peut cotiser à sa religion, y compris le culte laïque. Alors, on va trouver du plus et des moins dans cette façon de faire, mais bon, nous, nos enfants cotisent au culte laïque pour défendre les valeurs de la laïcité en Belgique. Ils font partie de ces personnes qui luttent justement pour que la religion ne soit plus enseignée dans les écoles. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est suffisant. Moi, je prends des cours de danse à la Roseraie ou à mon plaisir, l'un ou l'autre, parce que j'adore la danse orientale. On côtoie beaucoup l'islamisme. Et je fais bien aussi la distinction entre le fait musulman et l'islamisme. Enfin, la religion musulmane et l'islamisme. Alors, voilà, la question, elle est là. Comment tous, on peut se protéger de ça ?
Je vais donner deux éléments enfin, qui me viennent en vous entendant. La semaine dernière, on avait un festival au lycée et on a fait réfléchir les élèves à des plaidoiries. Enfin, ils ont travaillé sur des plaidoiries sur justement ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Afghanistan. Et en entrant par une question qui interpelle beaucoup les jeunes actuellement et beaucoup nos sociétés, c'est l'égalité filles-garçons. C'est-à-dire comment les filles ont un avenir, comment elles sont traitées dans les pays, et puis finalement, comment ça se passe pour elles. Et par cette entrée qui interpelle les jeunes dans nos pays, mais un peu partout, en réalité, ils peuvent réfléchir, et on peut aller voir justement ce qui se passe en Iran. Et ce qui se passe. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, dans un endroit très ouvert comme celui où je travaille, les jeunes, par exemple, ne savaient pas du tout ce qui se passait en Iran. On a fait témoigner la semaine dernière une poétesse iranienne qui a donc, je vous invite à aller voir son profil. Elle s'appelle Matra Gordani. Et elle a été emprisonnée en Iran et tout ça. Elle a parlé aux élèves de son parcours. Et ça a heurté. J'ai discuté hier avec des jeunes musulmanes du lycée qui sont voilées à l'extérieur du lycée, qui m'ont dit avoir été heurtées par la façon dont elle a parlé de ce qu'elle a vécu en Iran et de l'islam en Iran. Et je pense quand même qu'on a des actions possibles, là encore, pour ouvrir du champ de réflexion et faire découvrir aux jeunes des questionnements. Et que ça participe de la culture. Et que cette entrée par le féminisme avec un grand F, à travers l'égalité des filles et des garçons et leur possible commun avenir, c'est une entrée qui est vraiment intéressante et qui permet de déconstruire un certain nombre de choses. Les trois intervenantes que j'avais la semaine dernière, une du Sénégal, une de l'Iran et une de Belgique, mais algérienne, voilà, c'est Djamila Benhabib qui travaille à la mission laïque de Belgique, ont toutes dit aux élèves que tout ça, c'était des modes de soumission des filles. C'était poussé à l'extrême, des façons de soumettre les filles par rapport aux garçons. Donc c'est une réponse, une parmi d'autres.
Juste une remarque, la réponse qu'on peut faire, là encore je reviens à l'histoire, c'est de travailler sur la place de la chevelure de la femme. Ça étonne toujours les élèves de savoir que jusqu'à très récemment, une femme qui sortait en cheveux en France, à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, même entre-temps après, était considérée comme une femme de petite vertu. Et pourquoi les femmes se sont coupées les cheveux pendant les années folles, enfin celles qui étaient quand même dans les sphères de la société les plus hautes, et ben c'est justement, c'était un marqueur d'émancipation. Donc aujourd'hui, on associe ça au voile islamique, mais en fait, la chevelure de la femme a longtemps été l'objet de beaucoup de regards et de contrôle par l'homme, et donc de soumission de la femme.
Alors juste sur partout, le voilement est imposé de façon obligatoire par la loi. Il n'y a jamais égalité, ni en droit, ni en dignité, ni en devoir. Dans aucun pays où le voilement est obligatoire. Pour répondre à cette envergure et ces attaques idéologiques sur l'école, il faut comprendre en quoi elles sont concertées. Le même jour de l'assassinat, par exemple, de Dominique Bernard, le même jour en Iran, la même idéologie tuait un célèbre réalisateur iranien. C'était pas des faits divers isolés. C'était pas des assassins isolés. C'était la même idéologie, non nommée, non combattue, parce que déjà, il faut conscientiser et mettre en langage. On n'en est pas là. On n'en est pas là avec juste un élément très simple de comparaison. Salman Rushdie, pour avoir écrit les versets sataniques en 1989, se prend une fatwa de Khomeini en Iran. Tout le monde, quasiment tous les intellectuels, l'intelligentsia de l'époque, Isabelle Adjani a lu ses versets pour dire non, ça ne passera pas. L'art, les artistes, les enseignants, les profs, les journalistes doivent continuer à parler librement. Eh bien, aujourd'hui, il a failli mourir l'année dernière. Plus de personne, plus de papier. Les bourreaux continuent à tuer en 35 ans. La différence, c'est le silence des foules qui détournent les yeux et qui regardent leurs pieds. La différence, c'est ça qu'il faut interroger. C'est d'abord, si on ne conscientise pas un sujet et qu'on recule, comment le traiter quand déjà il n'est même pas mis en conscience par les mots.
Madame l'enseignante de lettres, vous avez commencé par donner votre point de vue vis-à-vis du film et ce qu'il vous procurait vis-à-vis de l'enseignement en disant que ce n'était pas ça pour vous une classe. Et que c'était, donc je me fais le parti du... moi, je suis musulman pratiquant. J'ai fait l'école coranique et je ne me suis pas reconnu non plus dans ce qui a été montré dans ce film. Et j'ai été gêné par ce film dans le sens où ça contribue à faire le succès de l'extrême droite, de l'extrémisme, en alimentant une certaine peur sur tout le long de ce film, parce qu'on met le projecteur sur une minorité, selon moi, parce que j'ai grandi dans cette éducation également, et qui, selon moi, reste une minorité qui alimente des peurs et qui va, par la suite, faire vendre de la sécurité en adoptant des mesures où, et pareil, ce langage de peur m'est assez inconfortable. En tout cas, d'élaborer un esprit critique, c'est ce qui me marque dans ce film. Et effectivement, c'est très intéressant d'adopter cette posture avec le poète qu'elle a choisi de montrer. Ça, c'était une bonne chose. Néanmoins, j'aurais aimé, dans le film, élaborer un esprit critique, c'est avoir plusieurs sources. Et effectivement, là, c'était la source contraire. Et faire discuter les personnes, c'est pour moi le moyen de coexister ensemble, c'est de faire discuter les élèves finalement, parce qu'on est face à des enjeux par rapport au harcèlement, par rapport non seulement l'homosexualité à l'école, mais aussi les genres, les discours à partir du genre. Et ça aussi, ça remue toutes les religions, et même pas toutes les religions, toutes les cultures, même si des personnes totalement athées ne peuvent pas avoir ça dans leur culture ou quoi que ce soit, et ils se retrouvent dépassés par un fossé générationnel. Et tout ça, ça se résout uniquement par la discussion, et pas en affichant une diapositive ou un auteur précis, mais en laissant la parole aux élèves aussi, et en partant de la parole des élèves pour bâtir quelque chose ensemble entre professeurs et élèves. Maintenant, je ne suis pas enseignant, donc je... mais en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. Et voilà, j'aurais aimé nuancer le propos pour dire que, parce que ça se termine sur un coup de couteau très violent, et après avec un message comme quoi, bah non, pas de cours religieux. Et je trouve ça très fort et très... enfin voilà, je voulais nuancer le propos dans le sens où voilà, ne rentrons pas chez nous avec cette peur de l'autrui et allons à sa connaissance.
J'entends et je comprends et je partage beaucoup de vos propos. Quand je disais, c'est pas ça dans les cours, c'est le sac sur la table, non. Le portable à moitié sur la table, non. Ne pas s'écouter pour permettre les échanges contradictoires et le pluralisme des points de vue et des éclairages. Donc c'est ça. Quand je disais c'est non, c'est quand on s'entend pas et tout. Voilà. C'est en ça que les gens qui ne sont pas enseignants croient que peut-être c'est le bronx absolu et qu'on ne peut pas s'entendre et que le prof n'est pas écouté sauf à hurler. En fait, c'est en ça que je disais. Mais on a le droit, et pour certains enseignants, certains ont pleuré en disant c'est exactement ce que je vis. Donc ça dépend aussi où on enseigne et autres. Je dis juste que je peux émettre des réserves personnelles tout en voulant profondément, sans lui coller d'étiquette, que ce film existe. Parce que les étiquettes d'islamophobie et d'extrême droite mettront juste des menaces de mort sur le réalisateur et Lubna Azabal. Ça sera juste ça, en fait. Et je préfère que le film existe et soit critiqué sereinement, éclairé par des mots, que les désaccords soient exprimés, plutôt qu'on veuille annuler la parole de l'autre. Je trouve ça très malsain, ce qui se passe actuellement, de ne plus pouvoir échanger dans une contradiction saine, c'est-à-dire différents éclairages et désaccords. Ce n'est pas grave et on pense plus loin. C'est quand on veut annuler et quand on colle des étiquettes. Les premiers à en poser sont ceux qui sont souvent tellement prisonniers d'idéologie qu'ils ne sont plus aptes à penser, c'est-à-dire à raisonner. Penser, moi je dis souvent à mes élèves, c'est peser dans ta balance étymologiquement, le pour et le contre. Si tu n'as qu'un plateau, tu ne penses pas. Mais, la chose qui nous empêche d'avancer, c'est que les élèves ne sont que le résultat des adultes et de ce qui se joue socialement. Ça veut dire que quand on voit des salles d'épreuves très divisées, quand on voit l'annulation de la parole, pour tous ceux qui veulent éclairer par des mots juste une étiquette qui les met en danger de mort, on ne pense pas. Et même on recule. Et donc, voilà, il faut déjà que les adultes mêmes ne soient pas dans cette logique de ne pas pouvoir faire vivre le pluralisme et la raison. C'est déjà la base.
Il y a Catherine qui veut dire un mot. Après, j'ai une intervention ici et je...
Voilà. Je voulais réagir, monsieur, par rapport à ce que vous dites. Effectivement, je suis d'accord. Et vous, je vous rejoins. On donne, effectivement, de ces élèves musulmans une image fanatisée, effectivement, dans le film. Il faut bien comprendre que dans notre école, en Belgique comme en France, bien entendu, la coexistence, le vivre en commun entre des élèves qui sont de confessions différentes, qui n'ont pas du tout de confession ou qui ont des options spirituelles différentes, peut aussi très bien fonctionner en classe. Je vous citerai un exemple. Il y a 10 jours, donc c'était l'Aïd, et il y a 2 élèves qui n'étaient pas dans mon cours au moment d'une petite interro parce qu'elles avaient fêté l'Aïd. Donc le lendemain, je suis allée les voir en disant « Mais les filles, vous n'étiez pas là hier ?» Bon, je sais que c'était laïde, vous auriez pu venir m'en parler. Et là, ils m'ont dit, ah bah oui, mais on n'osait pas, parce qu'avec la laïcité, on s'est dit que... Donc on a pris le temps d'en discuter. Et je leur ai demandé déjà si ça s'était bien passé, cette fête. Donc elles étaient toutes contentes de pouvoir m'en parler. Et après, je leur ai dit, mais vous avez le droit à des jours fériés. Vous voyez, c'est à nous aussi, dans l'école de la République, de dire que tous sont les bienvenus à partir du moment où le propos est serein, qui n'est pas fanatisé. Et je pense que ça, c'est un outil pour les faire sortir, justement, de la radicalisation, qui, par ailleurs, existe. Juste une remarque, vous avez convoqué l'extrême droite. Je crois que l'ultra-gauche aussi véhicule beaucoup de stéréotypes hein, sur la question et parfois nous empêche d'avancer, hélas.
Voilà.
Hélas.
Et je vais prendre une question là. Car je prends une question d'abord, s'il te plaît. Mais,
Bonsoir. Merci déjà pour cette soirée. J'ai trouvé le film très intéressant. Je voulais juste répondre à monsieur. Voilà, alors, soyez rassurés. Moi, ça ne m'a absolument pas donné la peur des musulmans. Voilà. J'ai trouvé qu'au contraire, il y avait un éclairage intéressant. C'est qu'on montrait que les musulmans étaient les premières victimes de ce que je n'appelle même plus une religion, en fait. Et c'est là où, moi, je m'interroge beaucoup. C'est qu'on parle beaucoup de tolérance pour pouvoir échanger entre nous et nous comprendre et vivre ensemble. Et justement, plusieurs fois dans ce film, j'ai eu l'impression que la tolérance était utilisée comme une arme pour pouvoir, en fait, faire vivre ce qui est intolérable et qui n'est plus de la religion. Enfin, selon moi. Voilà. Et donc, je me disais jusqu'où, en fait, on octroie une liberté de parole, une liberté d'expression, et où, à un moment, on dit stop. En fait, là, non. Ça rentre pas. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté de parole, en fait.
Alors, juste une question subsidiaire de moi-même. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez, parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de la puissance publique. Parce qu'en 1905, ce qui a été veillé comme du lait sur le feu pour que ce soit appliqué et applicable. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a les profs qui peuvent dire qu'il y a un abandon de la puissance publique. J'aimerais avoir votre avis sur ça et la question qui est posée là.
Sur la question qui est posée, il y a des éléments de piège à éviter où nous, il faut penser encore plus juste pour oser prendre la parole sur ces sujets. Il faut penser encore plus juste, parce que ceux qui collent des étiquettes, on ne leur demande pas de raisonner. Ils seraient bien incapables de donner un argument. Et ceux qui raisonnent et qui ont affûté leurs arguments depuis 15 ans, eux, on leur demande de se justifier tout le temps. Par exemple, un élément de langage qu'on retrouve et qui laisse la parole à tolérance, c'est pas du tout tolérance, c'est l'édit de Nantes, et 100 ans après, on le retire. Hein. Ça veut dire que c'est piégeux aussi comme terme dans l'histoire. Ce qui tue aussi, c'est au nom du respect. C'est un mot totalement piégé et une inversion totale de valeur. Donc, par exemple, le respect des croyances, ça ne veut rien dire. La loi reconnaît le respect des croyants, des personnes, pas des idées. Et encore moins quand certains tuent au nom d'elles. Encore moins quand elles disent ces idées qu'il faut balancer les homos des immeubles. Encore moins quand elles disent ces idées que la Terre est fixe ou plate et qu'elle s'est faite en 6 jours. Ou que les garçons et les filles ne se valent pas en dignité. Encore heureux que j'ai le droit de critiquer une idée pareille. Au nom de quoi ? Il faudrait respecter les croyances en s'arrêtant à ça. Au nom de l'humanisme et de la science, on a le droit de critiquer les idées, les croyances, mais pas les croyants. C'est très différent. Encore une fois, il y en a beaucoup. Ah, il n'y a qu'à respecter les croyances et tout ira bien. Mais quel poncif, enfin, quel contresens total du point de vue de l'intelligence, en fait. Et pourtant, combien d'adultes même tiennent ce discours-là ? Donc encore faudrait-il que les adultes soient suffisamment affûtés dans leur intelligence et leur humanisme pour ne pas tomber dans le moindre piège. Autre exemple de piège, critiquer le voilement des corps n'est en rien être contre les femmes voilées. Gros piège. Exemple Victor Hugo, qui était profondément à défendre les prostituées, à leur faire une place dans sa littérature, et à profondément lutter contre la prostitution. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose, en fait. C'est le même raisonnement complètement absurde qu'on nous tient. Ah, bah alors, si on lutte contre le voilement des corps, alors c'est que vous êtes contre les femmes voilées. Ça n'a rien à voir. Par exemple, c'est pour ça que le combat antiraciste et féministe a été complètement
gangrénée de l'intérieur, parce qu'il y a un versant universaliste et un versant intersectionnel. Et bon, pareil, si je me lance dans ça, voilà. Mais c'est sacrément piégeux, ça. Parce que ça veut dire que les féministes intersectionnelles, selon la couleur du bourreau, ne va pas dénoncer le crime. C'est pour ça que le passe-droit pour un Tariq Ramadan ou un Najli ou un Tarbouaf ou autre, passe-droit. Mais dans le même temps, hein, PPDA, etc., ou Benoît Jacquot, alors là, on fustige. Ce qui est très bien pour l'un, mais pourquoi pas le faire pour tous ? Exemple, voilà. Et il y a plein de pièges comme ça. Ça veut dire que c'est pareil pour le combat antiraciste. Les personnes dites racisées qui ne tiennent pas un discours victimaire sont des bounties. Ils sont blanchisés. Ah bah ouais. Rachel Kahn ou autres. Et certains sont menacés de mort, mais eux ne sont pas invités. Eux n'ont pas voix au chapitre.
Sur la question de la tolérance, effectivement, dans l'éducation nationale, on ne tolère pas. Parce que tolérer, effectivement, ça veut dire supporter. C'est-à-dire qu'il y a une relation de dominant à dominé. Tout à l'heure, tu évoquais l'édit de Nantes, les catholiques ont toléré les protestants en leur donnant quelques places fortes. Et puis, par ailleurs, ils n'avaient pas le droit de citer dans le royaume de France. Donc, effectivement, l'idée de tolérer, non, on ne tolère pas. Et à un moment, on a le droit de dire stop. On a le droit de dire stop à un discours déviant. Non, effectivement. Et Babacar demandait pour les services publics. Je dirais que moi, les services publics, ils essaient de s'adapter à une société très mouvante. Et c'est vrai qu'on peut toujours effectivement faire mieux, mais je crois que la loi de 2004, la circulaire de 2023, nous aide quand même, nous accompagne malgré tout dans l'école. Et il pose un cadre qui nous permet effectivement de dire à un élève à un moment, non, tu rentreras pas avec ton voile, parce que et à ce titre-là, je trouve quand même, on peut toujours faire mieux, mais on est quand même encadré. On a quand même un soutien. Et puis il y a ces équipes Valeurs de la République, bon, certes, qui sont nées après les attentats, après l'assassinat de Samuel Paty, mais qui ont quand même l'intérêt d'exister.
Alors. Et Madame la proviseure.
Juste sur la question de la puissance publique et de la tolérance, moi, je pense qu'on a quand même dans ce pays... Alors, c'est vrai qu'on le mesure plus quand on voyage ou quand on écoute les gens qui viennent d'ailleurs, mais un cadre légal qui pose un certain nombre de... Au-delà de l'école, là, clairement. Et donc, ça s'applique à l'école, évidemment. Un code... par exemple sur le racisme, on en parle beaucoup aussi dans ce film. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses riches. Alors, je ne l'ai pas du tout trouvé. J'ai lu l'article du Monde ce matin qui critiquait, en venant en trois lignes, qui condamnait un peu ce film. Moi, je ne l'ai pas du tout trouvé agressif, parce que justement, je l'ai trouvé très, très pluraliste, parce qu'ils sont tous de la même communauté, où globalement, Mounia, son père, la prof aussi est musulmane. Je trouve que c'est assez bien vu, ça, justement, pour justement qu'il n'y ait pas un focus sur un groupe. Et nous, en France, on a quand même des lois. Par exemple, il y a beaucoup de racisme dans ce film, dans les échanges entre les élèves, de toutes parts. Et en France, on a quand même une puissance publique qui a affirmé un certain nombre de textes sur la laïcité, sur le financement des cultes, sur le racisme, sur les propos homophobes. Ce sont des délits. Le harcèlement, par exemple, tout le plan harcèlement qui est mis en place dans l'éducation nationale et qui se déploie vraiment, on arrête de mettre la tête dans le sable. On essaie. Alors, tout n'est pas parfait, mais on travaille. On travaille vraiment. Et il y a des lois, des délais, des délits qui sont posés et des actes qui sont posés. Par exemple, on change un peu de paradigme en arrêtant de faire partir les victimes et en se disant que, elle est très intéressante, cette scène des enseignants et de la directrice qui réfléchissent au renoncement que ça opère de penser que c'est elle qui doit s'en aller, alors que finalement, on rêve tous que dans le film, ils décident qu'elle va rester puis qu'ils vont faire un travail. Bon, c'est pas ça pour l'instant dans la vraie vie ce qui se passe, mais on est en train de travailler sur ces questions-là. Et moi, je trouve que la force publique, elle dit, malgré tout, un certain nombre de choses qui protègent les individus
sur les LGBT+, on a beaucoup avancé sur le genre, etc. Il y a des choses qui avancent. Il y a aussi des paroles tolérées qui sont très agressives, trop agressives, mais qui sont en réalité souvent hors cadre de la loi et dans l'école, du coup, non exprimables.
Oui, pour préciser encore ma question, je parle des sanctions, parce que vous, les enseignants, les personnels de direction et les personnels administratifs, vous êtes face à une situation. Est-ce que vous pensez que depuis 2004 et ou alors ces derniers temps, la situation, le soutien de la puissance publique à travers des sanctions, parce que ce que moi, on m'a appris quand j'étais petit, quand on faisait quelque chose, on était puni. Là, par exemple, j'ai bien apprécié dans le film qu'elle a dit, si vous ne voulez pas, vous sortez. Point final. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans cet accompagnement par la puissance publique avec toute sa puissance comme avant?
Alors moi je dirais premièrement sur les textes qui sont à notre disposition, quand on fait des formations, après l'analyse de la situation, on propose aux professeurs tout le corpus législatif qui existe et tous les documents officiels qui existent. Il y a un code de l'éducation qui effectivement nous donne des solutions, des réponses. Et on a aussi, vous connaissez peut-être le Conseil des sages, qui a édité donc, ce qu'on appelle des vadémécums de la laïcité, des vadémécums contre le racisme et l'antisémitisme. On a un guide de l'identité républicaine, on a un guide de la laïcité à l'école primaire. Tout ça, c'est en ligne, hein, vous pouvez y aller. Et à chaque fois, donc, quand on a des situations, des cas qu'on nous pose, par exemple le port du voile ou effectivement un propos raciste, un propos homophobe, on a des modes d'emploi. En fait, pour pouvoir savoir comment agir. Donc, on peut dire qu'on là-dessus, on est encadré. Alors maintenant, sur les sanctions, oui, il existe des sanctions. Il existe quand même des sanctions. Après, tout dépend comment le professeur dans sa classe va réagir. Effectivement, un professeur peut dire, oui, il y a un élève qui a lancé ça, mais c'était pour rire. Après, on revient vers la question, effectivement, de la censure. On voit bien dans la réunion pédagogique, à un moment donné, ces professeurs qui sourient ou qui dit carrément, c'est la scène dans les toilettes quand les deux femmes sont là et l'une d'elles dit, écoute, arrête, parce que tu te mets en danger, tu nous mets en danger. Voilà. Alors, effectivement, s'il y a de la censure, il n'y a pas de sanction. Mais si les professeurs parlent, sans aller jusqu'à la sanction, il y a des mesures qui sont prises.
Alors, important. Voici, s'il y a une dernière question après, éventuellement, parce que les gens sont en train de partir, tous, quoi.
Oui, en fait, tout le monde est crevé, il bosse demain, c'est vrai, mais juste important que ça fasse sens, parce que les sanctions interviennent. Si c'est pour signer un règlement intérieur ou lire une charte qu'on ne comprend pas, ça ne fait pas de sens. Et si les adultes eux-mêmes luttent pour faire tomber la loi 2004 parce qu'ils ne la comprennent pas, ça ne fait pas de sens. Par exemple, la loi 2004, c'est celle qui interdit les signes ostensibles religieux à l'école. Ostensible, ça veut dire visible et signifiant. Et certains veulent la faire tomber parce qu'ils n'ont pas compris que ça déchargeait les jeunes filles d'avoir à faire un choix dès 10 ans, dès la 6e, et d'être dans un conflit de loyauté en disant « Toi, tu respires et tu as un espace où tes certitudes restent à la grille parce que sinon, ça t'empêche de prendre les savoirs. » Et elle n'est pas comprise. C'est pas pour interdire celle qui le porte, la loi 2004. C'est pour permettre sans pression à celle qui ne le porte pas que ce soit le cas. Qu'est-ce que ça donnerait dans une classe où de la même confession, il y en a 6 qui sont couvertes et les autres non ? Si vous saviez l'embrigadement idéologique et ce que reçoivent ces jeunes filles, parler de libre choix quand les deux alternatives ne se valent pas, quand le choix réversible n'est pas possible, qu'est-ce qu'un choix quand il est ni libre, ni réversible, sans violence, sans se couper de ses proches ou autres? Certains le font, et s'ils consentent, parce qu'il faut voir aussi la rhétorique dans les plateaux, d'accord, entre celle qui va être respectée, respectable, et celle qui doit porter la responsabilité éventuellement d'une agression si elle a, par un centimètre de peau, pu susciter le désir. Enfin, c'est toute une la question du prosélytisme. Donc, le djihad, comme là, on a l'air de penser, c'est 1% des islamistes. C'est presque rien. C'est pas ça, l'enjeu. C'est l'imprégnation. Et le voilement des corps, d'ailleurs, n'est qu'un marqueur. C'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est même pas, j'allais dire, presque le sujet de sanctionner le voilement. Enfin, si, ça l'est, parce qu'il faut bien trancher sans mettre en danger les personnels. Et quand ça tranche pas, ben, ça tergiverse et ça met en danger tout le monde. Et c'est pas insécurisant, à commencer par les élèves. Mais ce que je veux dire, c'est que les 9 dixièmes de l'idéologie, elle est plus rampante et non perçue.
c'est-à-dire le poids, l'impératif de virginité, le tabou de l'homophobie, l'interdiction de l'IVG, de la contraception, sur à peu près tous les combats émancipateurs du XXe, on n'y est pas, en fait, dans ce discours idéologique-là. Et ça, c'est pas perçu. Et bien souvent, ces jeunes filles, c'est pas la peur qui prime. Ça veut dire qu'il n'y a pas de provoque, il y a une immense trouille. En voyant un dessin qu'on n'a pas le droit de voir, c'est comme si on hypothéquait son paradis. C'est la peur de l'enfer qui se joue. Il n'y a pas de provoque dans ça. Ça veut dire, moi, je n'ai pas peur, mais je vois l'embrigadement de mes élèves. Et il est massif. Et les affaires-là, en une semaine, sur deux Algériens poignardés parce qu'ils buvaient une bière, il y a une police de la vertu et des mœurs qui pèsent en premier sur ceux qu'on estime qui doivent rester à leur place avec le discours ultra-conservateur tenu sur eux. Et s'ils s'émancipent, s'ils s'affranchissent, s'ils ne croient plus, l'apostasie est punie de mort. Là,
moi, je voulais rappeler une chose quand même, que le réalisateur, c'est un Marocain, belge d'origine marocaine, de cette religion musulmane. Comme moi qui vous parle, je suis issu de cette religion au Sénégal. Il y a l'homosexualité est punie là-bas aussi. On a un nouveau président qui a ses deux femmes. Enfin, bon, voilà, il y a une façon de faire que nous on combat. Mais ici, ce qui s'est posé, dont on n'a pas parlé, c'est la liberté d'expression aussi. C'est ce point-là qu'il faut garder en mémoire, parce que s'il n'y a plus de débat contradictoire sans risquer sa vie, je suis désolé, on n'a plus aucune liberté. Aucune liberté. Donc, il faut qu'on soit vigilant à ne pas être piégé. Il faut donner les mots qui sont à combattre pour les conserver. C'est liberté acquise qu'il faut conserver, la liberté de penser, d'expression. Et que, voilà, la croyance et les croyances, ce n'est pas pareil. Et ça, il faut le revendiquer si on ne veut pas finir à l'âge de pierre, quoi. Voilà.
Par exemple, quand même, c'est important. Une... Attends, sur la liberté d'expression.
Oui, ouais, pardon. Est-ce qu'il y a encore une question direct. Après, vous prenez et on conclut peut-être. D'accord. Ça marche.
C'est pas une question, c'est juste repréciser que tout ce qu'on raconte là, ça n'est pas propre à l'islamisme non plus. Il faut voir aussi la montée, la radicalisation aussi de nos catholiques, enfin ici à Angers, enfin c'est quand même terrible. Et c'est les mêmes choses, hein.
C'est pour ça que je disais que les ressorts sont très similaires. Les églises évangéliques derrière Bolsonaro ou en Argentine ou derrière Trump, ce sont les mêmes éléments de langage. Ils se rejoignent sur beaucoup de points. Il y a même un livre pour vous dire Les bouffons de la haine par Thomas Enlang. C'était une petite frappe de Créseil. On lui dit tu vas en prison ou tu infiltres les milieux d'Alain Soral. Et il a infiltré. Et le projet, c'était le front de la foi, en associant tout le milieu de Dieudonné et des islamistes au moment des quenelles antisémites, et avec les milieux d'extrême droite d'Alain Soral, parce que l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, elle a une certaine aversion pour le pluralisme et la raison. Ils se rejoignaient totalement dans ça. Et le fait d'avoir sorti le bouquin, bah, ça a un peu fait capoter leur plan. Mais en tout cas, ils en avaient le... les extrêmes s'auto-alimentent. Quand il y a une affaire sur le voile, ça fait monter l'islamisme, ça fait monter l'extrême droite, enfin l'extrémisme politique et religieux sont contents en fait. Quand ça, c'est très dur à tenir cette ligne de crête humaniste dans la nuance et la complexité. C'est, il faut être sûr.
Les amis, tout a une fin. Désolé. Donc on va vous remercier. J'espère quand même que ce moment d'échange, parce que ça permet de décharger toutes les émotions qu'on peut vivre, il faut en parler. Pour pouvoir décharger et pouvoir reprendre un peu ses esprits. Moi, on me l'a appris comme ça, fortuitement, par une psychologue dans les écoles de mes petits. Quand les parents sont trop déchirés un peu, elle a dit que les enfants, quand ils sont... Nous, quand on va voir un film, on peut discuter du film. Alors que l'enfant qui est devant la télé, qui voit des choses violentes, qui ne peut pas l'exprimer, le sort forcément par la violence. C'est pour ça qu'il se bagarre. Et quand elle a dit ça, j'ai appris quelque chose de majestueux. Ah ouais, ouais. Merci en tous les cas. Et puis à très bientôt, hein, avec d'autres événements. Merci pour tout. Merci, merci.